Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Sortie de zone. Mon nom c'est Jérémy Filosa. Merci d'être là en notre compagnie dans cette semaine extrêmement occupée pour le Canadien de Montréal. Ce ne sont pas les nouvelles qui manquent. Allons tout de suite dire un beau bonjour à ceux qui nous accompagnent pour l'émission d'aujourd'hui. Jérémy Rainville du 98.5 FM. Salut Jérémy.
Salut Philo.
Simon-Olivier Larange de la presse. Salut Simon-Olivier.
Salut.
Et Guillaume Lefrançois aussi. Salut Guillaume.
Salut Jérémy.
Bon les gars, on va plonger dans le vif du sujet puisqu'on ne s'attendait pas à ça. Lorsque j'ai préparé l'émission ce matin, la nouvelle n'était pas encore tombée, mais on peut pas faire autrement que de commencer avec Cole Caulfield qui a été rappelé par le Canadien ce matin. Il a été placé sur le taxi squad, mais il faudrait commencer par expliquer ça veut dire quoi ça exactement. Est-ce qu'on peut le voir dans un match bientôt? En tout cas, Dominique Ducharme semble indiquer qu'au niveau du plafond salarial, ça risque d'être compliqué. Simon-Olivier, je sais que tu étais là ce matin, tu as couvert l'entraînement du Canadien. Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet?
En fait, on est au point où on sait tous à peu près la même chose, c'est-à-dire le fait qu'il est sur l'équipe de réserve, ça veut dire que son salaire n'est pas comptabilisé sur la masse salariale du club. Il est ce qu'on pourrait appeler dans la zone Michael Frolic, c'est-à-dire s'entraîner fort sans jouer avec le Canadien pour l'instant. Ça a du sens quand même que le Canadien le rappelle dans la mesure où le Rocket de Laval, pardon, présentement ne joue pas, est en congé pour encore quelques jours en raison de l'annulation des matchs ou du report des matchs contre les Marlies de Toronto,
ouais,
qui compose avec une éclosion de COVID. Fait qu'on veut lui faire goûter un peu à l'expérience du grand club. Là où c'est moins clair, c'est quand Ducharme dit que y a pas d'espace sur le plafond salarial.
Ouais.
C'est vrai en principe, mais c'est pas compliqué de lui en faire si on veut. Là, on peut céder Paul Byron à l'escouade de réserve. On peut bouger différentes choses. Je pense que si on mettait Eric Gustafsson au balotage demain, je pense pas que les équipes se garocheraient pour le prendre vu le prix que le Canadien a payé. Fait que je pense qu'on essaie de calmer les attentes des partisans, mais c'est pas vrai sur papier qu'il peut pas jouer. On veut pas le faire jouer tout de suite, mais il pourrait éventuellement arriver dans le décor.
En fait, c'est ça, comme tu dis, ce côté plafond salarial, il y a tout à fait des solutions qui existent. Puis comme tu dis, en plaçant Paul Byron, par exemple, dans l'escouade de réserve, tu montes Caulfield, puis l'économie que le Canadien fait, compense pour le salaire que tu ajoutes de Caulfield. Donc, au niveau salarial, c'est pas un problème. Par contre, là où peut-être le Canadien veut être prudent, c'est qu'on sait, après la date limite des transactions, tu as droit à 4 rappels seulement, excluant les rappels d'urgence, bien sûr. Donc ça, c'est sûr que quand tu te restes encore une quinzaine de matchs, tu veux pas nécessairement non plus brûler trop rapidement tes 4 rappels, là, si jamais de différentes situations avec lesquelles composer. Donc, il y a peut-être ça aussi là, qui peut jouer dans la décision là, qui fait en sorte que pour le moment, le Canadien met les freins.
Mais en même temps, Jérémy, écoute, on est allé chercher des défenseurs supplémentaires. Donc, on a énormément de profondeur présentement chez les défenseurs, notamment avec les arrivées de Gustafsson et Merrill. Mais là, ça fait en sorte que c'est bien beau, les défenseurs, mais on va en avoir là-dedans un paquet qui joueront pas de toute façon. Et là, on n'a pas d'espace pour rentrer, ne serait-ce qu'un seul attaquant, si on en a de besoin.
Ouais, mais ça sera pas trop long, à mon avis. Là, tu sais, je veux dire, c'est le fun ce qu'on a entendu ce matin, mais c'est un bel, puis je pense que les gars l'ont mentionné, bel exercice de relations publiques pour dire tout le monde, on se calme le pompon, Cole n'arrive pas tout de suite, ça sera pas, tu sais, on va pas le brûler dans la Ligue nationale. Mais en fait, l'histoire, c'est que t'as enfin une munition. Tu peux challenger certains joueurs sur l'avantage numérique si jamais Caulfield arrive, parce que, excusez-moi, là, je pense pas qu'on est allé chercher pour son jeu à 5 contre 5. Je pense que ça sera sur l'avantage numérique, qu'il arrive pas à marquer, qu'il y a quelques difficultés. Si t'as Suzuki qui marche pas trop bien à 5 contre 5, est-ce que tu peux lui enlever un peu de temps de glace en ajoutant Cole Caulfield à sa place? Moi, je pense que oui. Fait que donc, tu sais, tout est une question d'avoir l'outil nécessaire pour être capable de manœuvrer. Je vous rappellerai que le Canadien a fait piètre figure face aux Flames de Calgary dans cette défaite de 4-1. C'en était quasiment gênant de voir le manque d'intensité dans le match. Fait que t'as besoin d'avoir ce genre d'outil-là. Je croyais que Staal était capable de faire ça pour donner un peu de challenge à Suzuki, à Kotkaniemi et à Philippe Dano. Dano, on n'a pas besoin, là. Mais entre autres pour Suzuki, Staal n'est pas capable de faire ça. Paul n'a pas pris son train d'aller après son but en prolongation. Il n'a pas pris son train d'aller. Là, t'as Caulfield sur l'avantage numérique qui peut arriver et dire « OK, gars, je vais y aller. Moi, je vais essayer. Moi, m'essayer, les boys. On va regarder ce que ça va donner. » D'après moi, son lancer en avantage numérique va faire la différence pour le Canadien.
Tu sais, t'as parlé de Byron qu'on pourrait, disons, placer au balotage. Je pense à un gars comme Lekkonen, on pourrait faire la même chose. Je pense pas qu'il serait réclamer, en tout cas.
Je pense que Lekkonen, il y aurait. C'est la grosse différence, c'est que Lekkonen est en dernière année de contrat. Donc, je pense que pour bien des équipes, une équipe qui a une coupe de blessés à l'avant, il peut quand même faire le travail dans un quatrième trio. Là, donc, Lekkonen, je pense pas que le Canadien voudrait risquer. Mais Byron, lui, ben, c'est fait. De toute façon, il a passé le ballottage. Donc, à partir de maintenant, ils peuvent le faire monter et descendre comme ils veulent avec l'escouade de réserve.
En tout cas, on s'est tous excités ce matin pour. En tout cas, pas grand chose pour tout de suite parce qu'il jouera pas ce soir. Ça, c'est certain. Ce soir, je parle de vendredi soir contre les Flames de Calgary. Par contre, il y a des joueurs qui vont effectuer des retours au jeu. Ben Chiarot, c'est confirmé. Il était jumelé à Shea Weber pour l'entraînement de ce matin. Donc, il devrait jouer ce soir aux côtés de Weber. Et ce serait, dans le fond, tout le monde descendrait d'une coche, là, comme on dit. Kulak se retrouve sur la troisième paire avec Romanov. J'ose espérer qu'Edmondson et Petrie vont avoir le gros des minutes. Puis ouais. Ensuite de ça, ben on pourrait éparpiller entre les deuxièmes duos et troisièmes duos, selon moi, équitablement. Parce que même si, tu sais, Chiarot, là, on peut pas lui demander de jouer 20 minutes ce soir, je pense pas. Et Weber n'est pas à son meilleur. Donc, je pense que Kulak peut aussi aider Romanov.
Le seul problème que je vois là, c'est que tu as deux défenseurs comme Romanov, Kulak, que le Canadien était clair qu'il n'aime pas les voir à droite ni un ni l'autre. Donc, tu sais, Romanov, on le sait, on l'a vu à droite en début d'année, puis à un moment donné, ça a été dit, puis Duchamp l'a dit deux, puis même trois fois, il est meilleur à gauche. Puis Brad Kulak, on l'a très peu vu à droite jusqu'ici, puis bon, ça remonte à Claude Julien, mais si je me souviens bien, c'est Claude Julien qui avait dit que Kulak pas à droite. T'sais. Donc là, est-ce qu'on va lui donner un essai? Ben oui, pourquoi pas. Mais c'est ça, il y a peut-être un petit problème qui se dessine là.
J'ai bien hâte de voir ce que Ben Chiarot, de quoi il va avoir l'air au début, lors de son retour au jeu. Est-ce qu'on va retrouver un gars reposé, comme on avait vu en série l'année dernière? On parlait du Big Three, souvenez-vous, le Weber, Petrie et Chiarot. Ou est-ce qu'on va retrouver un joueur qui manque de constance et surtout de discipline qu'on a vu en début de saison? Simon-Olivier, je sais pas si tu veux embarquer là-dessus?
Ben en fait, effectivement, on a vu deux Ben Chiarot, ne serait-ce que cette saison, au cours des matchs qu'il a joués. Là où je m'interroge plus, c'est sur, on en a parlé abondamment, sur son partenaire, c'est-à-dire chez Weber, le capitaine, ce qui ne vit vraiment pas des bons moments ces semaines-ci avec le Canadien. Sa mobilité est au plus bas. C'est pas nécessairement la force de Chiarot de justement transporter la rondelle, être très mobile sur la patinoire. J'espère que ce duo-là va pas tomber dans ses vieilles habitudes, dans de vieilles habitudes qu'ils ont eues par le passé, c'est-à-dire se retrouver un peu les pieds dans le béton autour du filet, c'est-à-dire on connaît leur présence physique, on sait tout ce qu'ils peuvent apporter. Mais c'est ça, on est un peu hésitant sur ce duo-là. Cependant, en ce qui concerne Brett Kulak, je comprends ce que Guillaume dit, mais néanmoins, je pense que c'est une bonne nouvelle pour Romanov qui peut enfin trouver un partenaire régulier. Je pense que Xavier Ouellet a rendu un bon service aux Canadiens récemment, mais c'est pas à mes yeux un défenseur de la Ligue nationale, ouais. Tout comme Victor Mété. Fait qu'on, je pense que ça pourrait justement un peu stabiliser la troisième paire et ça peut juste bénéficier à un gars comme Romanov.
Mais je veux juste dire, Simon Olivier, j'espère que Romanov va pas trop s'habituer trop longtemps avec Kulak, parce que d'après moi, quand le Canadien va arriver à Edmonton la semaine prochaine, c'est pas mal Merrill qui va prendre cette place-là. Fait que pas trop de liens d'amitié, ça se peut que ça change assez rapidement d'après moi.
Mieux de pas s'attacher.
Ouais, ouais, exactement. En fait, ce qui est arrivé, pour ceux qui ont peut-être manqué un peu l'information passée, c'est que Gustafsson et Merrill, on les a tout de suite envoyés dans l'Ouest, à Edmonton, je crois, pour s'assurer de pouvoir joindre le groupe une fois avoir terminé leur quarantaine d'une semaine. Il y a aussi eu le rappel de Caden Primo. Par contre, dans le cas de Primo, c'est vraiment une raison préventive. Là, je pense qu'on veut, vendredi soir, ce soir, donc, qu'il soit le second à Jake Allen pour que si jamais, à un moment donné, il y avait une blessure à Allen, qu'on soit pas obligé de lancer dans la mêlée Carey Price à froid. Lui qui va revenir d'une blessure probablement samedi, mais Primo, on ne pense... En tout cas, on devrait pas le voir dans l'alignement, c'est-à-dire comme partant ce soir ou demain. On verra, là, Price, ça devrait être un retour confirmé pour le match de samedi. Maintenant, le Canadien a perdu 5 de ses 7 derniers matchs, les gars, et ça n'a pas été des défaites inspirante. Tu sais, il y a des défaites des fois où tu dis, bon, ben, on a perdu, mais on a joué un bon match, on n'a juste pas gagné. Mais les matchs sont extrêmement difficiles à regarder du point de vue montréalais. C'est pas intéressant. Il n'y a pas vraiment d'attaque, pas d'attaque soutenue. Les chances de qualité de marquer sont rares. Le club semble amorphe. Je sais pas si la fatigue commence à s'installer. Je sais que vous allez me dire, et vous me sortez toujours l'argument, les gars, de toutes les équipes sont pris dans la même situation, mais je pense que dans le cas du calendrier du Canadien, il est plus chargé que les autres équipes, étant donné l'éclosion qu'on a eue le mois dernier. Mais moi, je commence à voir une équipe qui est ralentie, et surtout les vétérans. Les vétérans. T'sais, on commence à voir Weber, c'est difficile. On va en parler dans quelques instants. Eric Staal, c'est pas évident non plus. Perry a ralenti aussi. Pour ces gars-là, là, jouer 4 matchs par semaine, là, c'est beaucoup leur demander. En tout cas, moi, c'était comme écrit dans le ciel là, que ça allait arriver éventuellement. On va le voir.
T'as tous ces éléments-là au moment aussi où celui qui te donne le plus d'énergie, Brendan Gallagher, est blessé.
Exact.
C'est un autre problème qui s'ajoute. Tout ce que tu dis là est vrai. Un dont on parle pas beaucoup, je trouve, mais qui me semble avoir un peu disparu dans la dernière séquence, c'est Tyler Toffoli. Un seul but dans les 7 derniers matchs, fiche de -9. C'est la pire fiche, justement, pendant cette séquence-là de 7 matchs difficiles du Canadien. Donc, ouais, fiche de -9. Un joueur dont on vantait, pourtant, on disait, c'est un gars qui est assez complet, donc même s'il marque pas, il te fera pas mal, tout ça, il va aider. C'est pas nécessairement ce qu'on voit. Donc, lui, c'en est un qui a une petite baisse de régime. En même temps, c'était illusoire de penser qu'il allait garder le rythme qui a tenu pendant la première moitié de saison. Là. Donc, c'était évident qu'un ralentissement était à prévoir. Mais disons que ça souligne encore plus tout l'impact que Toffoli a pu avoir, l'impact positif qu'il a pu avoir dans la première moitié de saison, parce que maintenant qu'il disparaît, ajoutant à ça la blessure à Gallagher, ça fait quand même moins d'outils pour le Canadien.
En tout cas, je sais que c'est compliqué au niveau du plafond salarial, Simon-Olivier, mais moi, j'aimerais vraiment qu'on essaye d'utiliser tout le monde. Jérémy, tout à l'heure, a parlé de Cole Caulfield, en espérant de voir bientôt. T'sais, j'espère que Jake Evans ne traînera pas dans les estrades pendant 4-5 matchs consécutivement. On va avoir des options aussi en défensive à partir de la semaine prochaine avec Gustafsson, Merrill et tout ça. En tout cas, j'espère voir tout le monde pouvoir contribuer, parce que de la façon dont les choses vont présentement, on s'en va dans le mur. C'est assez clair, là.
Je suis d'accord avec toi, mais la mauvaise nouvelle pour Jake Evans, c'est que Paul Byron va pas très mal. C'est-à-dire que le candidat à sortir de la formation le plus évident, c'est Paul Byron. Et ça se passe plutôt bien. Bon, ça a été, à l'instar du reste de l'équipe, ça a été difficile contre Calgary mercredi. Mais il s'est même retrouvé sur le premier trio contre Toronto. A bien fait avec Philippe Dano pour contrer le trio d'Austin Matthews. Fait que, pauvre Jake Evans, le meilleur candidat à remplacer, c'est ce que Eric Staal, qui est très inconstant et qui a même été un peu absent les derniers matchs, mais pour l'instant, lui, c'est vrai qu'il n'y a pas de place pour lui à l'heure où on se parle. Fait que c'est pas nécessairement une bonne nouvelle. Et pour les Nini et pour Frolic, ça reste toujours le même refrain. Juste réagir un peu à ce que tu disais sur la fatigue. Mm-hmm. Je comprends ce que tu veux dire et c'est complètement légitime. Toutes les équipes sont dans le même bateau, mais tu sais, le Canadien a quand même eu une semaine de repos complet à cause de l'éclosion de COVID, à cause de Joël Armia, finalement, de l'éclosion attribuable à Joël Armia. Et le pire s'en vient, c'est-à-dire que le Canadien, il lui reste présentement 16 matchs, et j'en vois un, deux contre les Sénateurs d'Ottawa. Sinon, tous les matchs sont contre des équipes, tu sais, des équipes en avant d'eux ou contre les Flames de Calgary qui sont derrière eux. Donc, tous les matchs vont être à haute intensité. Ça va être des matchs difficiles. Et je pense que ce qui fait le plus mal aux Canadiens et à toutes les équipes également, c'est l'absence d'entraînement. Il y a le repos, mais il y a aussi l'absence d'entraînement. Les Flames de Calgary ont eu une semaine de congé un peu inespérée, eux aussi, mais c'était pas leur éclosion, c'était à cause de l'éclosion des Canucks de Vancouver.
Ouais.
Ils se sont retrouvés avec du temps qu'ils pensaient pas avoir, et ça a été du temps d'entraînement. Et Darryl Sutter a fait valoir.
Bon point.
Moi, je suis arrivé au mois de mars, et on a eu deux, trois pratiques de suite. Après ça, on a embarqué dans un stretch où on s'entraînait jamais. Et là, on vient d'avoir des entraînements. Mm. Et curieusement ou pas, trois matchs qui suivent les entraînements. 3 victoires pour les Flames qui sont par ailleurs animés d'une énergie qui, tu sais, dans la mesure où ils espèrent faire les séries, on va y revenir tantôt, mais le Canadien, je pense, est victime de ça. C'est-à-dire que toute sa semaine de congé n'a pas pu s'entraîner parce que tout le monde était en confinement. Et à un moment donné, de la vidéo, c'est bien beau, mais il faut passer du temps sur la glace pour rentrer des nouvelles, des nouveaux systèmes, des nouveaux jeux et tout et tout. Et c'est peut-être ce qui va rendre un peu difficile l'intégration de Cole Caulfield à mesure où le Canadien ne s'entraîne jamais. Et Charm l'a encore souligné ce matin. Fait que tout le monde est dans le même bateau, mais sur ce côté-là, c'est assez embêtant pour le Canadien présentement, je crois.
Oui, tous des bons points. Jérémy, non, mais dans le cas des Flames...
Attends, je vais réagir à tout ce que j'entends depuis tantôt. Là. OK, je pense qu'il y a un mot que vous avez oublié, là, ça s'appelle la complaisance. Je pense que le Canadien était dans une situation où on avait de l'avance sur les Flames de Calgary, on a des matchs en main, on était quand même capable d'aller chercher son lot de points malgré les défaites. Puis là, tout le monde est embarqué tranquillement, pas vite, dans le marshmallow. Puis là, on s'est dit, ah ouais, mais on est un club bâti pour les séries s'en viennent, on commencera un peu plus tard à travailler. Oups! À un moment donné, les Flames de Calgary arrivent, ils te battent, pong, tu tombes à 4 points, t'as des matchs en main, mais là, chaque match devient important. Là, le marshmallow, là, c'est le temps d'enlever les pieds dans le marshmallow et de commencer vraiment à compétitionner. Moi, je pense pas que c'est une question de fatigue. Évidemment, c'est un calendrier qui est chargé, là. Je suis pas un imbécile. Je pense pas que c'est une question de fatigue, mais je pense plutôt que on n'a pas de sentiment d'urgence parce qu'on ne sentait pas le côté être obligé de commencer à compétitionner. Ouais. Mais là, si présentement, là, je pense que t'as 4 matchs contre Calgary au courant des 10 prochains jours.
Ouais.
Si t'arrives là-dedans à aller chercher 3 victoires là-dessus, oublie ça, là. Il y en a plus de compétition
même
avec 2. Calgary, là.
Même deux.
2 ou 3. Mais si tu veux le faire comme il faut, t'en fais 3. Tu sais, tu te trompes pas, là. T'arrêtes tout ça, puis après, tu peux commencer à peaufiner tes affaires. Si tu veux te donner du trouble, marcher dans la garnotte, les 2 roues dans la garnotte d'ici la fin de la saison, ben, perds 3 matchs sur 4, puis ça va donner vie aux Flames, puis il y aura une compétition. Sinon, sois intelligent, puis je pense qu'on est rendu là chez les Canadiens. Il faut m'emmener, allumer, là, puis commencer à dire, on a besoin de compétitionner.
Ben, en tout cas, Guillaume, pour moi, c'était clair dans le dernier match qu'il y avait une équipe qui avait le sentiment d'urgence, puis une équipe qui ne l'avait pas. C'est clair que les Flames de Calgary, dans le speech d'avant-match, se sont dit, les gars, pour nous, là, ça commence pour vrai maintenant. Si on est capable de mettre la pédale au fond maintenant, on va se donner une chance. Et du côté du Canadien, on n'avait pas ce même sentiment d'urgence. Là.
On l'avait pas, mais aussi, les Flames ont le don d'éteindre le Canadien.
C'est vrai.
C'est dur, c'est vraiment dur à décrire là, comme situation, mais les Flames ont vraiment la recette là, pour éteindre le Canadien.
Ils nous éteignent, nous autres aussi, dans notre salon chez nous.
Ça donne jamais de très grands spectacles, ça c'est clair. Mais moi c'est ça que je trouve fascinant, cette équipe-là. Puis en fait, ça me rappelle un petit peu les années, là, il y a peut-être 4-5 ans, où le Canadien était incapable de battre les équipes de l'Ouest. À cette époque-là, ce qui semblait logique, ce qu'on faisait valoir, c'est que le Canadien était une petite équipe. Là, t'arrivais dans l'Ouest contre des grosses équipes. C'était une question que tu faisais pas le poids en termes de force, de gabarit, tout ça. Cette année, c'est clairement pas un problème de gabarit. Mm. Donc, je me demande vraiment c'est quoi le problème. Mais les Flames éteignent le Canadien.
Bon, les gars, on va faire un petit exercice le fun. Parce que on essaie de garder ce podcast le plus intemporel possible, malgré le fait qu'on vient quand même de parler de l'actualité. Mais je voudrais qu'on se prête au jeu, parce que là, étant donné qu'on connaît les éléments avec lesquels le Canadien va terminer la saison. On sait que cet été, il y aura un repêchage d'expansion et les équipes devront choisir soit protéger 7 attaquants, 3 défenseurs et 1 gardien, ou 8 patineurs plus 1 gardien. Et là-dedans, il faut comprendre que les joueurs qui ont des clauses de non mouvement ou de non échange, on ne peut pas les laisser libres. Je vous donne ma liste et ensuite je vous laisse me donner la vôtre. On va voir s'il y a des différences et ensuite de ça, on débattra. À l'attaque, je vais y aller avec Anderson, Tatar, Toffoli, Dano, KK, Gallagher. Et là, Drouin, j'ai mis une petite étoile, OK? Parce que sinon, là, je me rendais même pas à mes 7 attaquants, parce que les autres, honnêtement, si je les perds, ça me semble pas dramatique. En défense, j'ai Petrie, Edmondson et, encore là, j'ai mis Sherrod, ça aurait pu être Kulak, dépendant de ce que vous en pensez. Et devant le filet, on a Price, on n'a pas le choix parce qu'il y a une clause de non-mouvement. Et ensuite, il va falloir discuter du dossier de Jake Allen. Guillaume, je te laisse commencer là-dessus. Ça ressemble à quoi, ta liste?
Écoute, moi en défense, contrairement à toi, je protège chez Weber parce que je comprends, premièrement, il n'y aurait pas grand chance qu'il soit réclamé à 7,8 millions. Je comprends qu'il a ralenti, mais ça reste ton capitaine. Tu vas l'avoir pendant un certain temps. pour Marc Bergevin fait partie de ce que Marc Bergevin essaie de battre.
Donc, tu le gardes pour ne pas avoir ce conflit-là.
Ben, c'est ça. C'est quand même une drôle de situation. Si c'est ton capitaine, si tu bâtis ton équipe autour de lui, si c'est lui qui incarne la culture que tu veux incarner, que tu veux transmettre à ton équipe, je trouverais que ça enverrait un très drôle de message de pas le protéger. Donc, je protège Weber, Petrie, pas le choix, puis ça va de soi. Et Edmondson comme troisième. Alors, je laisse Sherrod et je laisse Kulak exposé, en plus de Jake Allen devant le filet, bien sûr, là, qui l'est aussi. À l'attaque, c'est intéressant à l'attaque. Gallagher, Anderson, Toffoli, Kotkaniemi, ça c'est les quatre où tu te poses même pas de questions.
Ouais, dans mon cas, Tatar et Dano, je prenais pour acquis qu'il avait signé.
Ben c'est ça, ben exactement. Donc tu sais, moi dans mon exercice, je tiens pour acquis que Dano va revenir. Je pense que Marc Bergevin devra trouver une façon de se donner ce qu'il veut parce qu'il est clairement indispensable. Alors Dano comme cinquième attaquant. Et là, après ça, pour les deux derniers, les deux dernières cases, ben là, t'as Drouin, qui est une possibilité. T'as Tatar, s'il revient. Et, ben, ensuite de ça, ben, t'as une autre place s'il revient pas. Drouin, je pensais pas. Tu sais, si on avait fait l'exercice il y a un mois, Jonathan Drouin aurait été un de mes automatiques. J'avoue que je me pose la question. Pas seulement en raison de sa production, mais c'est même à se demander, tu sais, c'est quoi l'avenir de Jonathan Drouin, Montréal, tu sais, ça fait quand même, on dirait à chaque saison, il arrive tout le temps à ce moment-là où il atteint ce
plafond.
Traverse, ouais, c'est ça exactement. Il traverse un moment difficile. Donc, à long terme, c'est quoi l'avenir? Je me pose la question. Je vais quand même le protéger. Dans mesure où il reste, je sais pas s'il y a de l'argent pour Tatar. Donc, si tu ne redonnes pas de contrat à Tatar, ça fait drôle à dire, mais je pense que tu arrives à Jake Evans comme septième attaquant protégé peut-être en disant...
Jake Evans, en termes d'ancienneté, est-tu obligé d'être
oui,
protégé?
Oui, il doit être protégé parce que c'est l'ancienneté dans les rangs professionnels. Et, okay. Et Evans c'est quand même a joué des saisons à Laval aussi là, okay. Avant ça. Donc, c'est ça. Donc, moi, j'arriverai à Jake Evans comme septième attaquant. Là, on s'entend qu'il est loin d'être indispensable, mais tant qu'en protégeant un septième, j'aime mieux lui. C'est un jeune qui peut devenir un bon quatrième centre éventuellement. Même s'il y a des hauts et des bas.
Bon, Simon-Olivier?
Moi, ce qui concerne Drouin, c'est, pour parler en bon français, un no-brainer, dans la mesure où, je veux pas revisiter l'échange Drouin-Sergachev, ce qu'on fait à peu près quatre fois par semaine, de toute façon, depuis que c'est arrivé, mais... T'sais, le Canadien a quand même investi beaucoup pour obtenir Jonathan Drouin, a investi beaucoup d'attentes en Jonathan Drouin, puis je pense pas que c'est un joueur qu'on voudrait ou qu'on pourrait se permettre de perdre pour rien.
Okay.
À moins vraiment que Drouin le demande ou que Drouin arrive vraiment à une espèce de au bout du chemin avec le Canadien et dise « Sortez-moi d'ici, je vais m'en aller », mais je vois pas pourquoi le Canadien, s'il veut que Drouin s'en aille, je vois pas pourquoi le Canadien obtiendrait pas quelque chose en retour. Je dis pas qu'il y a un énorme retour, là, mais tu sais, je pense que c'est un actif de l'équipe. Ensuite, les autres, bon, évidemment, est-ce que j'entends quelqu'un?
Oui, j'allais juste, parce qu'il y a une petite nuance que j'avais oublié d'expliquer par rapport à Drouin. C'est simplement que je me dis, si tu le laisses sans protection, je pense quand même que Jake Allen et Ben Sherrod sont peut-être plus tentants et moins risqués à repêcher que Drouin en raison de son salaire de 5,5 millions. Donc, okay. C'est le seul
point. Vas-y, Simon-Olivier, on te laisse poursuivre.
De toute façon, le processus, on s'entend. Marc Bergevin ne va pas être surpris par le joueur qui est sélectionné. Si Bergevin tient à Drouin ou tient à Sherrod ou tient à Allen, il va faire un deal avec Ron Francis.
Mm-hmm.
C'est pas, ou avec le, y a-t-il un DG à présenter?
Ouais, c'est ça, c'est Francis.
Je pensais que c'était le président Francis. Bref, tu sais, c'est pas, de ce cas-là, je vois une formalité. Pour le reste, j'assume, moi, que Dano et Tatar, c'est un des deux. Fait que je protégerais celui des deux qui reste. Et choix peut-être controversé, je protégerais Arthur Lekkonen avant Jake Evans. Je sais que c'est pas le choix le plus populaire auprès des partisans et surtout pas auprès de Jérémy Filosa. moi, je suis vraiment pas emballé par Jake Evans. Je sais que c'est un bon patineur, mais si je vois pas, tu sais, on l'a utilisé à l'aile récemment. Je vois vraiment un potentiel offensif très limité. Vous allez me dire que Lekkonen n'est pas un fin marqueur. C'est quand même un gars qui a marqué 18 buts. On dirait que je m'accroche à ça et je me dis qu'est-ce que les entraîneurs voient en lui. Et je me dis que c'est un joueur qui peut être assez pratique sur un quatrième trio. C'est un expert de l'échec avant. Si à un salaire raisonnable, je pense pas qu'il va gagner très cher l'année prochaine. Je pense que c'est un gars qui peut encore donner des services à une équipe. Et en défense, moi aussi, j'y vais avec les trois vétérans, Weber, Edmondson, Petrie.
Jérémy?
Ben écoute, là-dessus, Simon-Olivier, moi je veux juste dire, dans le cas de Lekkonen, tu sais ce qu'il va te donner. Je pense qu'il a atteint son maximum dans la Ligue nationale. Tu as parlé de sa meilleure production offensive, qui n'est pas le cas présentement avec le Canadien. Dans le cas de Jake Evans, tu ne sais pas ce qu'il peut te donner. Mm. Mis sur un trio offensif, tu ne sais pas ce qu'il peut t'amener. Est-ce que ce gars-là est un marqueur naturel? Je peux pas vous dire, mais c'est un gars que... qui démontre du travail, qui démontre les opportunités. En tout cas, du moins, on tourne à l'entour du filet quand Jake Evans est là. Fait que pour moi, je pense qu'il faut regarder, Jake Evans de façon différente. Est-ce que ça fait que je le protège? Ça, c'est un autre paire de manches. Mais tout ça pour dire, c'est que je pense que le débat est un peu futile parce que, selon moi, c'est vraiment Jake Allen qui sera visé, là-dedans, là. C'est Jake Allen qui semble le plus intéressant. Maintenant, à savoir, est-ce que Marc Bergevin, pour éviter qu'il soit réclamé, au repêchage d'expansion, va passer un deal avec Seattle? C'est ça la grande question.
Mais pourquoi eux autres devraient faire un deal? Eux autres vont dire, gars, just too bad. Eux autres, on le ramasse, ben ouais, mais, tout, là.
Mais non, mais c'est ça la business. c'est comme ça que Vegas a été richissime dans ses choix repêchage, puis tout ça. C'est en négociant, c'est arrivé. Toi, OK, parfait, tu veux pas que je le prenne. Qu'est-ce que tu me donnes? Tu vas me donner un choix de première ronde? Tu vas me donner un joueur? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu sais, c'est à savoir qu'est-ce que tu veux plus. T'sais. Et là, est-ce que Drouin peut arriver dans l'équation? Je sais pas. Mais tu sais, tu veux-tu plus Drouin ou garder Jake Allen? Moi, je pense sincèrement, c'est mieux de garder Jake Allen que de garder Drouin. Exemple, là, je dis ça. Mais il y a un jeu de coulisses qui va se faire, ça, c'est sûr et certain. Mais selon moi, c'est Jake Allen qui va être visé, ça, c'est sûr.
Mais la seule chose avec Allen, tu sais, oui, sur papier, si tu regardes strictement les joueurs du Canadien, oui, je pense qu'Allen te donne ton meilleur rapport qualité-prix, mais dans le cas de la position de gardien, il faut aussi que tu regardes c'est quoi les autres options que Seattle va avoir dans la Ligue. Ça, c'est une autre chose.
Mais là, t'as un gardien second à 2 millions l'année prochaine, presque 3.
Qui a gagné la Coupe.
Tu regardes qui a gagné
la Coupe Stanley.
Ouais, mais tu sais, comme à Dallas, oublions pas, à Dallas, ils vont devoir choisir entre Ben Bishop et Anton Udobin. Au Minnesota, t'as Kaapo Kakkonen qui a eu une belle éclosion cette année.
Non, mais attends, regardons avec Dallas. Fait que d'après moi, ils vont garder Bishop, puis notre autre gardien, lui, va s'en aller. Fait que est-ce que tu prends lui ou Jake Allen? Moi, je vais avec Jake Allen. Mais bref, continue.
Ben c'est ça. Donc Minnesota, ben c'est ça. Donc Cam Talbot qui rebondit cette saison, qui a une bonne saison. T'as Kaapo Kakkonen qui s'est révélé là, cette année qui a une super séquence. Donc là aussi le Wild va devoir choisir entre les deux. Talbot est loin d'être une valeur sûre, mais bon, regarde, tu sais jamais ce à quoi les DG peuvent penser. Donc tu sais, là t'as une autre option. À Boston, Tukaras et Yaroslav Halak, eux sont en dernière année de contrat, donc un des deux devrait devenir joueur autonome. À Vegas, t'as Leonard et Fleury, tu sais, quelle sera la stratégie de Seattle? C'est sûr que
dans le cas d'Allen, il est déjà signé pour plus d'une année. Donc, tu te casses pas la tête, là, tu sais.
C'est sûr. Mais, tu sais,
tu peux aller chercher un goaler, le gars est impliqué. Tu peux aller chercher un gardien de but numéro un à Vegas, tu peux aller chercher ton deuxième à Montréal.
En fait, je retire ce que j'ai dit pour Vegas. Par exemple, tout de suite après avoir dit ça, je me suis rappelé que Vegas n'a pas Seattle pourra pas repêcher de joueurs de Vegas. Donc, je retire ce point-là.
C'est assez incroyable. Mais la question, là, qui revient, puis là, on est passé par-dessus assez facilement, là. Mais la question, là, puis c'est drôle, je vais faire un parallèle bien niaiseux, là, mais moi qui couvrais l'Impact, là, on était placé dans une situation semblable alors qu'il restait encore des matchs à jouer parce que le repêchage d'expansion a eu lieu avant la fin de la saison, mais on n'avait pas protégé le gardien numéro 1, Clément Diop, et ça avait fait pour une situation extrêmement bizarre parce que là, c'est comme, ben, on t'a pas protégé, écoute, t'as pas été pris, mais pourrais-tu aller gauler, puis comme du monde, s'il te plaît? En tout cas, tu sais, je pense qu'en tant que... Je comprends ce que Guillaume dit, c'est-à-dire que en me disant que les chances qu'il soit repêché sont minimes, là je me place dans une situation d'être dans une mauvaise relation avec mon capitaine, en sachant que tu sais ça allait pas avoir lieu de toute façon. Mais logiquement, si tu le protèges pas et qu'il prenne, je veux dire, Marc Bergevin il cherche par tous les moyens d'aller chercher de l'argent sur la masse salariale, ça serait un cadeau tombé du ciel. Donc, il faut que tu fasses ton enquête, je présume, si t'es Marc Bergevin. Les gars, je me trompe-tu, Simon-Olivier, Jérémy, là-dessus?
Ben, faire l'enquête. L'enquête va être faite. Il n'y aura pas de... Tu sais, comme je disais tantôt, il va pas se faire prendre les culottes baissées, Bergevin. Il va savoir exactement c'est quoi les intentions de Seattle. Mais on revient toujours à la question, on se l'est posé souvent. Est-ce que Bergevin veut tant que ça se débarrasser de Shea Weber et surtout se débarrasser en n'ayant rien du tout en retour c'est pas tout à fait clair dans mon esprit que c'est aussi simple que ça. On connaît l'amour infini qu'a Bergevin pour Weber en particulier, les défenseurs en général. Il l'a encore prouvé cette semaine en acquérant deux autres défenseurs pour avoir plus de profondeur. Je pense pas. Je comprends pourquoi tant de gens sont excédés de voir chez Weber, puis même à couvrir l'équipe, on le voit là que tu sais Weber, on le sait qu'il coûte trop cher pour ce qu'il peut apporter, mais c'est vraiment
pour cinq ans très encore. Loin d'être,
je sais, mais je suis très loin d'être convaincu que l'équipe a fait cette évaluation là de Weber et veut à ce point là qu'il s'en aille pour se libérer de son salaire.
Jamais ça va arriver. Jamais ça va arriver, Jérémy. Même si tu te mets président du fan club de chez Weber, parce qu'en fait, c'est peut-être ça en dedans de toi. Tu veux tellement que chez Weber soit bon que là, t'es déçu de voir ses performances. Moi, là, je pense sincèrement que à la vie, à la mort, Marc Bergevin sera avec chez Weber. Et chez Weber, est-ce qu'il va finir son contrat? J'ai aucune idée. Mais c'est à chez Weber, puis je l'ai dit souvent, je vais le répéter, chez Weber ne peut plus jouer comme le chez des bonnes années. Il doit être différent. Comme Chara a changé son style de jeu, faut que tu changes ton style de jeu, tu sois un petit peu plus conservateur. Tu sais, t'appuies pas l'attaque sur chaque présence, parce que là, je sais pas si vous regardez les matchs, là, mais à chaque fois qu'on relance l'attaque, chez essaie d'embarquer comme le quatrième. Tu peux pas faire ça tout le temps. Reste un peu plus en distance. Puis, regarde, les séries vont arriver puis on va le trouver bien bon chez Weber quand il va être capable de donner du double échec en quantité industrielle quand l'officiel aura pas de sifflet. C'est tout. C'est
8, ça 8 millions par année pour donner des double échecs, c'est bon en tabarouette. Non, mais tu sais, c'est...
Non, mais attends, là.
Non, mais guys, on va tout se le dire.
Non, mais t'es réducteur.
On va dire la même affaire qu'on a dit la semaine passée. C'est quand la dernière fois que Shea Weber, dans une game, a été le meilleur joueur du Canadien. Il a scoré deux buts, il a frappé, il a donné 10 mises en échec, il était partout sur la glace, et il est la première étoile de la game. Avec un gars qui gagne 8 millions par année. C'est quand la dernière fois? Et s'il est pas capable de faire ça, ou il est plus capable, même une fois dans la saison, d'être le meilleur joueur, ça patinoire, puis t'es pogné avec ça pour encore 5 ans. Non, mais on est-tu fou dans la tête, ou c'est quoi l'affaire, là?
OK, Philo, là, juste te dire une chose, ça fait deux fois que tu fais des références à ça. Tu sais, tu nous as dit, est-ce que Kotkaniemi peut être le meilleur joueur sur la glace?
C'est ça.
Là, tu nous dis, est-ce que Shea Weber peut être... Tu sais, c'est pas à cause que tu es pas le joueur le plus utile dans le match que tu es pas bon. Moi, je pense que t'es capable d'avoir quelque chose, t'es capable d'amener quelque chose à l'équipe, puis faut pas être réducteur pour juste dire, regarde, Shea Weber, il avance plus. Non, Shea Weber avance plus, mais excusez-moi, ils sont juste pas capables de sortir la rondelle de leur territoire présentement. Jeff Petrie en a parlé. Les attaquants trichent. Il y a une couple de Drouin, il y a une couple de Toffoli, il y a une couple de Josh Anderson qui disent, regarde, moi, là, ça me tente pas trop d'avoir la mise en échec quand ils riment la rondelle sur le bord de la bande.
Mais c'est-tu quoi? Anderson, cette année, plus qu'une fois, là, on peut dire, hey, il a été de meilleur sa patinoire pour nous autres ce soir.
Puis Toffoli. Parce que toi, tu calcules qu'il est bon quand il marque des buts.
Mais c'est ça. C'est que Weber, par son style aussi, il va être rarement le joueur que tu vas dire, il est le meilleur ça de là, c'est il va te sauter aux yeux. Je veux dire, c'est l'autre chose. Là. Même dans ses bons moments, Weber n'est pas un joueur qui ressort beaucoup.
Normalement, chez Weber, en avantage numérique, ça devrait être un gars qui ressort.
Ben oui, mais il essaie de changer l'avantage numérique. Je sais pas si t'as remarqué, on joue plus en bas, on essaie de ramener ça au gars qui on appelle le bumper pour prendre un lancer. Moi, j'attends juste ça de voir chez Weber avec son one-timer, là. J'attends juste ça. Sauf que là, présentement, c'est pas ça qu'on fait. Fait qu'il passe la rondelle, puis écoute, qu'est-ce qu'il veut faire? On a décidé qu'on ne mettait pas l'emphase sur Shea Weber pour des lancers sur réception. Là, à la limite, appelle Alex Burrows puis donne-y de la chenoute. C'est ça l'histoire.
Non, ben tu sais, puis l'autre chose qu'il faut comprendre avec Weber aussi, je veux dire, c'est sûr que, puis ça, on le sait depuis le 29 juin 2016, on le sait que ce contrat-là, éventuellement, va être trop lourd, va être plus lourd que ce qu'il peut apporter. Clairement, on est en train d'arriver à ces années-là. Maintenant, ça veut pas dire non plus que ça ne sert plus à rien. Ça veut pas dire non plus que le Canadien peut s'en passer. Mais c'est sûr que oui, ça, son impact sera pas celui d'un joueur de 7,8 millions. Ça semble clair, là, même si ça veut pas dire qu'il sera pas capable de faire un petit retour éventuellement.
Là. Dernier mot à Simon Olivier là-dessus.
Ben, j'ai une réponse à ta question. En fait, tu penses, c'est quand la dernière fois que c'est arrivé chez Weber?
Oui.
23 février 2021, chez Weber marque 2 buts, 4 mises en échec, 4 tirs bloqués, 2e étoile du match.
Yes,
dans une
sir.
Défaite du Canadien, le dernier match de Claude Julien. Maintenant, tu sais, c'est quand la dernière fois que chez Weber joue un match à ton goût, Jérémy.
23 février, je vais remettre ça dans mon calendrier pour la prochaine fois.
Pour l'an prochain. Là.
OK, excellent. Bon, ben, on s'arrête là-dessus, les gars, et ensuite de ça, on va changer de registre. On va parler de ce qui se passe ailleurs dans la Ligue nationale. Et ensuite, on aura aussi les questions du public. Alors, nous voilà de retour pour un tour d'horizon de ce qui se passe ailleurs dans la Ligue nationale. Il faut commencer avec les Canucks, messieurs, parce qu'au moment où on enregistre cette émission, eh bien, ce soir, les Canucks devaient jouer contre les Oilers d'Edmonton, mais leur match a été, encore une fois, repoussé. Les Oilers ont été avertis hier de tout ça. JT Miller a fait une sortie publique cette semaine en indiquant que la Ligue nationale crie haut et fort que la priorité, c'est la sécurité des joueurs, mais son opinion, c'est que présentement, demander aux Canucks de revenir au jeu dans les conditions actuelles, ben c'est pas assurer la sécurité des joueurs. Tu sais, quand on parle d'une équipe qui a été arrêtée pendant 22 jours et qui n'aurait eu en fait qu'un seul entraînement avant le match de ce soir, c'était un peu ridicule. Maintenant, j'ai regardé le calendrier des Canucks, là, ça va finir à la mi-mai leur affaire et tout ça. Je sais pas ce que vous pensez de l'opinion de JT Miller. Ça va peut-être être un petit peu mieux, là. Ils vont avoir pratiqué 2-3 fois au moins avant de reprendre l'action samedi. Dimanche et non samedi parce que leur match a été repoussé à dimanche. Mais ça risque d'être une fin de saison compliquée.
Bravo à JT Miller. Une chance qu'il a parlé, honnêtement. Une chance qu'il a parlé parce que sinon, on aurait vu encore une fois... Et là, je veux pas embarquer dans de la grande philosophie, mais le mercantilisme de la Ligue nationale embarqué, c'est-à-dire on doit avoir des matchs, on doit passer au travers de la saison, il y a des diffuseurs qui ont payé pour, on doit avoir des... Hey, on se calme là. JT Miller a été clair, il y a des gars qui en arrachent, il y a des gars qui ont perdu du poids, il y a des gars qui ont perdu de la masse musculaire. Puis là, vous demandez à ces gars-là d'embarquer dans un niveau de compétition où les autres clubs n'ont pas arrêté. Tiens, en quelque part, la logique veut que donnez-nous une chance de compétitionner. Et là, vous ne donnez pas de chance, mais en plus, c'est dangereux pour notre équipe. Moi, je lève mon chapeau à JT Miller. Puis je veux juste dire. Je lève mon chapeau à la planète hockey parce que tout le monde a refilé l'information des Canucks de Vancouver de JT Miller. T'sais. Fait que donc, la Ligue nationale, c'était pas juste un cas isolé. La Ligue nationale a comme pas eu le choix de céder à, je dis pas un vent de protestation, mais du moins une prise de conscience collective. Ça fait du bien. Pour moi, c'est éclairant. Puis, savez-vous quoi? OK, il y a un match dimanche, mais moi, je serais pas gêné qu'on repousse encore. Enough is enough. Là.
Même Connor McDavid a dit hier... Ça aurait pas eu d'allure, là, jouer ce match-là.
Ben, c'est ça. Puis c'est un beau vent de solidarité entre les joueurs aussi. Puis c'est un cas, justement, où clairement, là, c'est ça, les joueurs se sont tenus. Ça reste que même avec un possible retour dimanche, on n'a pas l'air d'être sorti du bois hier. Donc, jeudi, Darren Dreger qui tweetait qu'il y a des joueurs même encore malades. Il y en a qui se demandent s'ils vont même terminer la saison. J'ai comme l'impression qu'on n'a pas encore vu le bout de cette histoire-là. C'est vraiment d'une tristesse de cette situation.
Mais Simon-Olivier, si on a parlé au début de la saison que s'il fallait annuler des matchs, on allait utiliser le pourcentage des points, mais la situation doit se rendre grave à quel point pour que cette façon de procéder-là s'enclenche? Parce que ça peut pas être pire que ce qu'on a présentement chez les Canucks, là.
Ben c'est ça. Visiblement, on n'a pas encore atteint le bout pour la Ligue nationale parce qu'on leur proposait quand même un calendrier de 19 matchs en 31 jours, en 30 ou 31 jours. Écoutez, je regarde leur calendrier. Tu sais, on déplorait que le Canadien joue 4 matchs par semaine présentement ou 4 matchs par tranche de 7 jours. Deux fois d'ici la fin de la saison, les Canucks jouent 5 matchs par tranche de 7 jours. Leur dernière semaine de la saison, c'est 2 matchs à Winnipeg en 2 jours, 1 jour de congé. Un match à Edmonton, 1 jour de congé. Deux matchs contre Calgary dans... à domicile et à l'étranger en 2 jours pour finir, ça n'a aucun sens et je suis assez impressionné par le courage de JT Miller dans la mesure où c'est pas du tout dans la tradition dans la Ligue nationale de parler contre la Ligue. On le dit souvent, c'est une Ligue conservatrice, les joueurs adoptent un style très conservateur, des sorties assez mesurées sauf exception et là l'exception, on vient d'en avoir une et comme a souligné Jérémy, ça a été largement relayé parce que je crois qu'il y a un consensus à ce sujet-là, on s'entend, j'ai pas entendu les lignes ouvertes récemment à Vancouver, là, peut-être que les partisans veulent des matchs, mais à part dans les bureaux de la Ligue nationale, tout le monde constate la même chose que faites quelque chose, écourtez la saison, arrêtez la saison des Canucks, mais c'est présentement, c'est pas vrai qu'ils prennent soin de leurs athlètes en leur proposant ce calendrier-là.
Bon, les gars, Marc-André Fleury est devenu cette semaine le 4e gardien le plus prolifique de la Ligue nationale en enregistrant une 485e victoire en carrière. Donc, il dépasse Ed Belfour. Il n'est plus qu'à 4 victoires de Roberto Luongo. Je pense que c'est intéressant de regarder un peu les gardiens de l'histoire de la Ligue nationale et de voir où est-ce qu'on place Marc-André Fleury. Je sais que cette semaine, tu as écrit un un texte là-dessus, Simon Olivier. Un
il y
ou
en a même écrit deux.
Deux, voilà, exactement. Non, mais ça vaut la peine parce que, écoute, là, quand on regarde le top 4 des gardiens de l'histoire de la Ligue nationale, pour ceux qui ont gagné le plus de matchs, c'est 4 Québécois. Brodeur, Roy, Luongo et maintenant Marc-André Fleury. Et dans le top 10, c'est 5 Québécois sur 10. Donc, assez impressionnant là-dessus. Mais tes premières impressions sur cette carrière de Marc-André Fleury, qui n'est pas terminée, là, soit dit en passant, là.
Il y a quelque chose qui se passe avec Marc-André Fleury, c'est-à-dire c'est difficile de pas aimer ce gars-là, dans le sens où, tu sais, des fois, on se fait reprocher de dire « Ah, mais là, vous êtes chauvin avec les Québécois, ta-ta-ta, le préjugé favorable », puis c'est sans doute vrai en partie, je veux dire, pour des raisons évidentes, et tout le monde le fait dans chaque marché, mais Fleury, spécifiquement, c'est tellement un gars gentil, sympathique, impliqué, qui a l'air d'aimer le hockey, que on dirait qu'on peut juste lui souhaiter que ça se passe bien pour lui. Tu sais, autant il y a une carrière exceptionnelle, trois bagues de la Coupe Stanley, ça n'a pas été une carrière de tout repos. Je l'ai rappelé dans mon texte ce matin. Tu sais, ses premières années, c'était des années très difficiles pour les Pingouins. La fin de son passage à Pittsburgh, c'était pas très heureux dans la mesure où il était rendu. On l'a laissé sur le banc pour les finales de la Coupe Stanley. On l'a pas protégé au repêchage d'expansion. À Vegas, là, on a acquis Robin Lehner l'année passée. On en a fait un peu de facto le numéro un sans le consulter. Fait que c'est pas un long fleuve tranquille, sa carrière, et malgré tout, il a surmonté les épreuves et il arrive aujourd'hui où il va finir sa carrière troisième et peut-être deuxième pour le nombre de victoires. Je trouve ça exceptionnel et je suis très impressionné et il y a toutes mes félicitations.
Jérémy, Marc-André Fleury, comme Simon Olivier vient de le mentionner, tu sais, on veut pas, on a toujours en tête ces fameux moments où il perd sa place de numéro un dans des moments importants en séries éliminatoires et tout ça. Reste que dans l'ensemble de l'œuvre, c'est une carrière absolument extraordinaire. Est-ce qu'on va lui reprocher ça toute sa vie? De toute façon, il va aller au temple de la renommée d'une façon ou d'une autre, là.
Moi, là, je vais te dire, c'est un gars de Sorel. Fait que félicitations à Marc-André Fleury, étant originaire de Sorel, moi aussi on est body. Mais ce que je veux dire, c'est que ce gars-là, souvenez-vous, était repêché premier au total, premier choix au total, ouais, du repêchage. Il y avait beaucoup d'attentes. Puis je vais vous parler de mon coin, OK? Dans mon coin, là, on se disait, mon Dieu Seigneur, es-tu si bon que ça, premier au total? Ouais. Puis là, ben, ça avance. Carrière avance tranquillement, pas vite. Remporte une première Coupe Stanley. Ben, mon Dieu, il est pas si pire, tu sais. Puis là, à un moment donné, la crédibilité monte. Puis tu sens que le ballon Marc-André Fleury gonfle de plus en plus. Dans notre région, là, je parle à Sorel-Tracy, dans le Bas-Richelieu. Ça gonfle, c'est gigantesque. Puis, malgré tout ça, Fleury reste toujours le même. Toujours le même gars, sympathique, un peu gêné. Tu le rencontres, tu sais, ils font souvent la classique de golf, Beauchemin, Fleury, Beauvillier, il est là. Il est un peu timide, tu sais, il parle mal à l'aise, puis il veut jamais parler en mal de quelqu'un, il veut jamais... Là, tu te dis, mais tu sais, ce gars-là, à un moment donné, il va vieillir, ça va arrêter. Non, il continue, puis il sourit, puis il rit, puis il a du fun, puis il joue des tours. Pour moi, c'est le côté gamin de Marc-André Fleury qui fait en sorte que ce gars-là est capable de continuer à performer dans la Ligue nationale. Et surtout, c'est que c'est un excellent gardien de but. Et en plus, c'est un gars de Sorel. Fait qu'il y a de mon admiration à 100%.
Guillaume? Ouais. Puis, tu sais, quand vous disiez, bon, tu sais, on l'aime beaucoup, c'est dur de pas l'aimer. Est-ce qu'on est chauvin par rapport à ça? Il est aussi devenu le visage de la franchise à Vegas, là,
c'est incroyable.
À sa première année, tu sais. Donc, c'est clairement pas juste une question de chauvinisme, là. Je veux dire, là-bas, ils l'ont carrément adopté, puis ça a comme été lui la première vedette de cette équipe-là. Ça en dit beaucoup sur lui, puis c'est bien aussi parce que ça a un peu, ça a ajouté une couche de crédibilité à ce qu'il avait fait. Tu sais, c'était facile à Pittsburgh de dire, ben oui, il y avait un gros club devant lui, tout ça. Il a prouvé qu'il était capable aussi d'amener justement une équipe pas aussi puissante là, sur papier que ce qu'il y avait à Pittsburgh, d'amener une équipe comme ça loin. Donc vraiment, c'est assez sensationnel comme parcours.
Mais moi, là, les gars, j'étais convaincu lorsqu'il a transitionné vers Vegas que c'était un peu le début de la fin. Tu sais, qu'il s'en allait un peu là-bas, pas prendre sa retraite, mais tu sais, que c'était, ça s'en allait vers la fin.
Finir son contrat.
À Pittsburgh aussi, il pensait ça.
Finir son contrat. Ben exactement. Donc, j'ai été très surpris de ça. Rares sont les gardiens qui sont capables de rebondir de cette façon-là. On dit des fois qu'un changement d'air peut changer des choses pour un joueur, mais je m'attendais vraiment pas à ça. Je m'attendais à ce qu'éventuellement, il devienne le numéro 2 pour les années qui suivent. Il y a eu quand même des bons coéquipiers devant la cage. Là, à Vegas, c'était quasiment comme écrit dans le ciel qu'il devenait le vétéran le numéro 2, puis il a toujours continué de se battre. Puis il est encore là, donc félicitations à lui.
Mais juste ajouter quelque chose, peut-être là, je regarde les noms qui sont là, puis c'est des noms prestigieux, Brodeur, Roy, Luongo, Fleury. Je dirais le seul avantage que je vois de Fleury par rapport aux trois autres, c'est selon moi, là, je vous dis bien selon moi, c'est le gars qui est le plus athlétique des trois. Fait que donc, tu sais, écoute, il est mince, il est en forme, il a eu des coups à la tête, il a eu des blessures pour des commotions cérébrales, mais outre ça, physiquement, j'ai l'impression qu'il va être capable encore. Moi, je pense qu'il a encore le goût de jouer au hockey, là. Et je pense pas que ça va s'arrêter immédiatement. Fait que donc, avec le sourire, avec le physique qui est là, je pense qu'il peut accomplir encore de belles choses, Marc-André Fleury.
Intéressant. Les gars, Anthony Mantha n'a pas perdu de temps à s'inscrire à la marque avec les Capitals de Washington. D'ailleurs, il a récolté déjà 3 points, 2 buts, une passe avec les Caps. Et lorsqu'on a entendu ses commentaires lors de son arrivée à Washington, lorsqu'il a dit « les gars s'amusent plus ici qu'on s'amusait à Détroit », je pense qu'on savait tous que c'était le cas. Mais en même temps, j'ai comme senti, tu sais, la petite flèche là qui nous disait, écoute, je suis tellement content de sortir de là, de me retrouver avec un vrai club, avec des vrais coéquipiers qui sont capables de me faire produire. Simon Olivier, on n'est pas surpris de voir qu'Anthony Mantha a sauté sur l'opportunité. On verra ce que ça va donner pour le reste, là. Mais en tout cas, les Capitals, au moment où on se parle, doivent se dire on a fait ça après bon coup, là.
Oui, absolument. Je suis 100% d'accord. Je pense que pour la meilleure nouvelle, c'est d'abord pour Anthony Mantha, effectivement, qui aura pas à vivre tout le long processus de reconstruction des Red Wings. Et croyez-moi, ce sera encore long.
Ouais.
J'ai entendu cette semaine un point de vue assez divergent que j'avais pas entendu auparavant. S'il y a des gens, des auditeurs qui cherchent un autre podcast de hockey à écouter en anglais, celui du Hockey News est très pertinent. Évidemment, prioriser le podcast Sortie de zone. Mais dans tous les cas, il parlait de cette transaction-là et il se demandait si Anthony Mantha n'était pas un point de sa carrière où justement les Red Wings l'ont échangé un peu au bon moment. C'est-à-dire que quand eux vont arriver justement complètement là où ils veulent arriver, c'est-à-dire avec une équipe compétitive où tous leurs très jeunes espoirs vont arriver à maturité, Mantha va avoir un peu passé son pic, alors que là, présentement, il se retrouve avec le retour qu'a eu la transaction avec un excellent joueur en Verana et 2 choix élevés au repêchage. Et il posait la question à savoir, est-ce que Yzerman a pas fait avec Mantha ce qu'il a fait avec Drouin? C'est-à-dire l'échanger au moment où peut-être que selon son évaluation, il pourra plus nécessairement apporter beaucoup à son équipe et profiter de sa valeur la plus élevée et imaginable. Et on l'a vu. On dirait que je me pose un peu ces questions-là, mais cela dit, comme je disais d'entrée de jeu, pour Mantha et les Capitals, c'est sûr qu'à court terme, c'est extrêmement gagnant. Et je pense que ça, tout est là pour que ça fonctionne.
Oui, absolument. Bon, les gars, on va s'arrêter le temps d'une courte pause. Au retour de ceci, les questions du public. Nous voilà rendus au segment Les questions du public. On va débuter avec une première question, celle de Rick Springetti, qui nous pose comme question. Croyez-vous que Dominique Ducharme serait à l'aise de couper du temps de glace ou même de laisser de côté des vétérans tels que Weber et Stahl, considérant qu'il est un entraîneur recru et qu'il a seulement un poste par intérim? C'est sûr que c'est pas idéal.
C'est pas idéal. Cela dit, moi, honnêtement, Eric Stahl, je pense pas que ça va être un grand problème. Le Canadien lui doit rien. Il est en dernière année de contrat. Il a vraiment pas une grande saison.
Il a quand même accepté de venir à Montréal alors qu'originalement, il devait pas.
Oui, mais je veux dire...
Y a-tu eu une discussion avec Bergevin pour dire, regarde, m'a dit oui, mais là, t'as besoin de me faire jouer. Je sais pas, n'importe quoi.
Je sais pas, mais je veux dire, il va falloir qu'il donne plus que ce qu'il donne en ce moment. Puis je veux dire, si ça continue de même, mais je vois pas ça comme un gros problème. Pour ce qui est de Weber, oui, c'est délicat. En même temps, je pense que c'est une situation qui s'explique. Je veux dire, premièrement, je crois pas que Weber a atteint le point où est-ce que tu le laisses de côté pour faire jouer Eric Gustafsson. Je pense vraiment pas qu'on soit rendu là.
À moins d'être qualifié pour les séries.
Ben c'est ça exactement. Donc c'est ça, c'est là que oui, ça s'explique dans une, si tu le fais dans une perspective de le ménager, de le reposer en vue des séries. Et ça, à la limite, c'est un dossier où Marc Bergevin s'en mêlera s'il faut, parce que c'est sûr que pour n'importe quel joueur, c'est pas évident de le convaincre de pas jouer. Mais tu sais, si c'est expliqué, présenté comme ça, je pense que oui, ça peut arriver, puis que ça vienne de Ducharme ou de Bergevin, peu importe, là, mais c'est quelque chose que je vois arriver.
Jérémy, là-dessus?
Écoute, ben, j'allais dire, tu sais, je pense pas qu'on est rendu à mettre dans les estrades, faire sauter son tour à Shea Weber, à part si c'est Philo qui coach. Ça peut arriver.
Non, mais je ferais...
Ben non, arrête, là,
non,
pas là-dessus.
Ce que je ferais, par contre, c'est ce que je ferais ce que Guillaume vient de mentionner. Je m'assoirais avec mes meilleurs, c'est-à-dire Weber et tous les autres qui ont beaucoup, beaucoup joué. Puis je dirais, ben écoutez les boys, tu sais, ça va fonctionner comme ça d'ici la fin. On veut que tout le monde, nous autres, pour nous ce qui est important.
T'as des matchs à gagner avant, là. T'as des matchs à
gagner. Exact, c'est ça, exact.
Là, ce que je veux dire, c'est que, tu sais, Dominique Ducharme, c'est drôle parce que j'ai posé exactement cette question-là à Danny Dubé. OK, après la défaite face aux Flames de Calgary, j'ai posé cette question-là. Qu'est-ce que Dominique Ducharme peut faire, étant donné avec son poste, qu'il a un poste d'intérim, t'as des vétérans, le DG a donné son club aux vétérans, puis dit, let's go, j'ai ma tête sur la bûche. Gagnez-nous ça, les boys, let's go. Bon. Et là, Danny Dubé de me rétorquer, écoute, tu coaches comme si tu avais un contrat de 3 ans. Tu coaches pour gagner parce que d'une façon ou d'une autre, si tu fais pas les séries, tu n'auras plus de job. Si tu perds au premier tour, tu n'auras plus de job non plus. Et la seule façon que tu vas garder ta job, c'est si tu gagnes. Fait que donc, coach pour gagner. Et là, il faudra prendre des décisions qui sont importantes. Il faudra, à un moment donné, arrêter de satisfaire tout le monde. Il faudra couper du temps d'avantage numérique et... C'est pour ça qu'on voit un Cole Caulfield arriver tranquillement. Ça se peut qu'on en coupe du temps d'avantage numérique à certains jeunes, Suzuki entre autres, Drouin peut-être. Mm-hmm.
J'espère qu'ils n'en couperont pas à Suzuki. C'est la seule place où il produit de ce temps-ci.
Définitivement. Mais je comprends, mais c'est du nanane, ça. Oui, je comprends. Mais
non,
pour le but qu'il donne, que ça donne 4 à 1, mettons, c'est pas lui qui a marqué, là. Mais tu sais, ça amène pas la production offensive qui fait en sorte que les Canadiens gagnent. Ça lui donne des stats à lui, mais ça amène rien au résultat. Résultat positif de l'équipe. Fait que donc, pour moi, je pense que c'est le temps de coacher pour vraiment gagner. Je pense pas que c'est un gars qui va agir de façon sauvage, mais je pense que c'est un gars qui veut gagner. Je sais pas si vous avez vu son visage dans le dernier point de presse, là, peut-être pas celui d'aujourd'hui, là, mais après Calgary.
Après la défaite.
Le gars, il est pas content, là. Puis, tu sais, quand il y en a qui disent, ah, il peut pas manager ça, laissez-moi vous dire, il sait où il s'en va, puis lui, il est pas content présentement.
Bon, dernière question, celle de Antoine Isoire. Comment une équipe de la Ligue nationale peut-elle bien sortir de sa zone et gagner des matchs sans avoir un défenseur mobile et capable d'une bonne première passe sur chaque paire? Ben, Simon-Olivier, peut-être si tu veux commencer là-dessus.
Ben, je pense pas que c'est une très bonne situation hein, si une équipe de la Ligue nationale se retrouve avec un défenseur. S'il n'y a pas cette formule-là de base, là, ça me semble être la réponse. Je sais pas si c'est un sous-entendu au Canadien.
Ben, j'ai l'impression que oui.
En tout cas, pour répondre platement à la question, non, ça me semble pas être des conditions gagnantes.
OK, j'ai quelque chose à rajouter là-dessus. Est-ce que je peux? Désolé, les gars, je coupe la parole. La solution, elle s'appelle Carey Price. Carey Price est le gars qui passe le mieux la rondelle. Moi, là, Jack Allen, je l'adore, il est très bon devant le filet. Mais sincèrement, dans les derniers matchs, on l'a vu à plusieurs reprises prendre la rondelle puis l'envoyer mourir tranquillement dans le coin au lieu de la passer directement à un défenseur. Là, la rondelle s'en va dans le coin. T'as deux clubs de rugby qui arrivent, poup, poup, on fait une mêlée puis la rondelle sort au club adverse puis on continue à tourner dans le territoire du Canadien. Carey Price, lui, prend rondelle. Quand il est pas trop relax, prend la rondelle puis fait ça, passe sur le tape à un défenseur ou un attaquant, ça relance rapidement puis tu passes pas autant de temps dans ton territoire. Fait que donc, pour moi, la solution à court terme pour le Canadien s'appelle Carey Price, c'est lui qui va bouger encore plus la rondelle pour les défenseurs.
Il peut aider, puis ben l'autre chose, oublions pas que Weber, en ce moment, Weber est probablement dans un très gros creux de vague. S'il redevient moindrement plus efficace, ça demeure un défenseur qui a une bonne première passe. Je dis, c'est pas lui qui va la sortir lui-même en patinant, c'est pas lui qui va déjouer deux gars, mais il est capable de faire une très bonne première passe. Donc, tu sais, c'est un gars qui est quand même capable de la sortir de façon efficace quand il va bien.
Bon, ben c'est tout pour l'émission d'aujourd'hui, les gars. On se retrouve sans faute mardi pour notre prochain podcast Sortie de zone. Simon-Olivier Larange, Guillaume Lefrançois, Jérémy Rainville, merci beaucoup pour votre contribution aujourd'hui. Maxime P. Paquette, merci pour la mise en onde. Mon nom, c'est Jérémy Filosa. Bon week-end. On se retrouve sans faute la semaine prochaine. Salut.